poésie et ainsi de suite. Manu Farine.
Progressiste contre réactionnaire, de tribune en contre-tribune, le monde de la poésie n'échappe pas à la bataille culturelle de l'époque. Aujourd'hui, retour sur une certaine idée de la poésie et des poètes. Mélanie Leblanc, Bruno Doucet, Gaëtan Didelot, bonjour et bienvenue à tous les trois. Petit retour sur la chronologie. Le 18 janvier dernier paraissait dans Libération une tribune, partie des réseaux sociaux, signée progressivement d'un collectif de 2000 poètes, auteurs, enseignants, bibliothécaires, libraires, s'indignant du choix de l'écrivain Sylvain Tesson comme parrain de la prochaine édition du Printemps des Poètes, qui se tiendra du 9 au 25 mars prochain. Nous refusons, écrivent-ils, qu'un événement culturel auquel nous sommes de fait inextricablement liés de façon symbolique, le refus de ce choix de Tesson, et l'idée était de contrer les idées reçues et de rendre manifeste l'extrême vitalité de la poésie. Tribune suivie d'une avalanche de violentes ripostes venues de médias de droite, droite radicale, extrême droite, mais pas seulement, suivie très vite d'une contre-tribune dans Le Point volant au secours de Tesson et fustigeant la police des poètes, parlant terrorisme idéologique, dictature morale et effet pervers du wokisme, suivi d'une défense en règle de Tesson par les ministres Rachida Dati et Bruno Le Maire. Bref, tout le monde a un avis et le fait savoir, suivi de quantité d'autres tribunes, suivi d'une enquête dans Le Monde, puis dans Libération, recueillant des témoignages dénonçant des dysfonctionnements et une violence managériale du dit Printemps des Poètes, suivi de la démission de Sophie Nolot, sa directrice, le 26 janvier. Pardon pour cette longue introduction. Vous êtes respectivement et parfois en même temps d'ailleurs poète, éditeur, libraire. La forme, les mots comptent. Qu'est-ce que la forme, le registre de la tribune pouvait pour vous, Mélanie Leblanc, qui êtes poétesse, traductrice, enseignante et l'une des premières signataires de la dite tribune? Qu'est-ce que vous en attendiez?
En fait, c'était une façon de témoigner de la honte que j'ai ressentie d'être associée à un tel auteur. Et donc, on n'attendait pas un tel déferlement. En général, les voix des poètes et des poétesses sont assez peu médiatisées. Nous voulions juste nous désolidariser. Moi, je suis en lien avec le Printemps des Poètes de diverses façons, parce que notamment, je participe à l'anthologie du Castor Astral. Et donc, je ne supportais pas l'idée qu'il symbolise. En fait, c'était le symbole. C'était pas du tout une attaque personnelle contre Sylvain Tesson. Ce n'était pas du tout une censure de Sylvain Tesson, c'était juste dire non à ce symbole.
Qu'est-ce que vous voulez dire par ce symbole?
Eh bien, par le symbole d'un écrivain qui a des liens attestés avec l'extrême droite. Il y a eu quand même un livre rédigé par un journaliste du Monde, François Krug, qui est sorti en mars dernier. Et en fait, personne n'interroge Sylvain Tesson sur ce livre et sur ses liens. Il ne s'est jamais défendu de ne pas appartenir à l'extrême droite.
Il l'a fait.
Oui, il l'a fait. Il a dit l'extrême droite, oh, mais qu'est-ce que c'est que ce mot, ce n'est pas très grave, etc. Il diminue l'impact de l'extrême droite et c'est le même discours que justement qu'emploie l'extrême droite pour diminuer l'importance en fait. Et les mots ont une importance pour les poètes. Et donc quand plane le doute en fait sur quelqu'un, on ne peut pas avoir comme parrain quelqu'un sur qui plane le doute de l'extrême droite. C'est ça en fait. Que ce soit avéré ou pas en fait, juste le doute émis par un journaliste ne pouvait pas rester.
La tribune a été écrite collectivement avec quelques maladresses, avec une erreur notamment, ce que n'ont pas manqué de pointer ses détracteurs, notamment l'attribution d'un texte à Tesson qu'il n'a pas écrit. Vous êtes libraire, Gaëtan Didelot, dans une librairie dédiée à la poésie, à Paris, située en face de la Maison de la Poésie, la librairie EXC, pour ne pas la nommer. Vous m'avez dit avant l'émission, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, je ne sais pas si j'aurais des choses intelligentes à en dire, mais je sais pourquoi je l'ai signé.
Oui, j'ai beaucoup réfléchi depuis. Je sais pourquoi j'ai signé cette tribune, tout simplement parce que il y a eu, comme on dit dans le langage des journalistes, une séquence politique qui, moi, m'a j'étais pas le seul, je pense, atterré. Que ce soit la loi anti-immigration, que ce soit plus avant l'assassinat de cet adolescent Naël, avec le fait que ce soit pas, enfin, on sait comment ça s'est passé après pour la personne qui a commis ce meurtre. Et ça, c'était un peu une sorte de cerise sur le gâteau, cette nomination de Sylvain Tesson. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et donc, quand on m'a proposé de signer, c'était vraiment un soulagement pour moi, quoi. Je me suis dit, des gens ont osé faire quelque chose que moi j'avais même pas imaginé, et je me suis dit, ça bouge un tout petit peu quand même. Et c'était un soulagement aussi parce que j'ai vu que parmi les signataires, j'ai regardé qui avait signé, j'ai évidemment lu la tribune d'abord, évidemment que j'y ai vu des maladresses, évidemment que je suis pas fan de la façon dont on évoque la poésie. Mais pour moi, c'était pas ça. Je veux dire, l'idiot regarde le doigt quand on lui montre la lune. Moi, je me disais, l'intention, c'est cette banalisation des idées d'extrême droite dans l'espace médiatique et dans l'espace culturel. On doit s'élever, qui qu'on soit, face à ça. Et ce qui m'a fait plaisir, donc je reviens là-dessus, c'est que parmi les signataires, il y a des poètes, des poétesses, des autrices qui ont des pratiques extrêmement différentes. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est aussi une vraie victoire de voir que malgré la diversité des pratiques, on peut se retrouver autour de quand même d'un certain nombre de choses. Et je me suis même posé la question, je me suis dit, parce qu'on a parlé de la poésie à droite à gauche, on disait ce mot-là comme s'il était clair, limpide, comme si tout le monde avait savait ce que ça veut dire, en fait, alors que
manifestement tout le monde a une idée là en ce moment.
Tout le monde a une idée. Et moi je me suis dit, bon, qu'est-ce qui rassemble tous ces gens? Qu'est-ce qui rassemble Rim Battal et Charles Penquin et Liliane Giraudon, qui sont des gens, Charles Penquin qui est plutôt du côté de la performance, Liliane Giraudon qui a une poésie, et Rim Battal aussi, qui sont deux personnes qui sont très engagées sur les questions féministes. Et je me suis dit, en fait, c'est des gens, à mon avis, qu'est-ce qui les rassemble? C'est qu'ils croient que le geste poétique, c'est un geste qui vise à dire autrement, dire le monde autrement, pour pouvoir le voir autrement et pour pouvoir penser autrement. Et je dis ça, je vais donner un poncif. La terre est bleue comme une orange. Tout le monde connaît ce truc-là. Éluard, il a pas fait un AVC quand il a dit ça, quand il a écrit ça. Il était pas, il est très bien. Il a dit par l'exemple à ses lecteurs, regarde, tu peux dire le monde autrement et tu vas pouvoir le voir autrement et le penser autrement, et c'est une richesse. Et ça, pour moi, cette diversité des pensées, des points de vue, c'est quelque chose qui, évidemment, est totalement opposé à quelqu'un, parce qu'on peut parler de Sylvain Tesson, on peut, dans ses textes, il dit des choses qui, moi, je trouve très problématiques. Encore, il y a Françoise Morvan, qu'on peut remercier, qui a pris la peine de lire son dernier livre avec les faits, qui en a fait un commentaire sur son site, qui est édifiant. Sylvain Tesson dit de lui-même qu'il est conservateur. Or, être conservateur...
Il peut être conservateur.
Ah, même pas de problème. Moi, ça me pose pas de problème. Mais, en tout cas, c'est que ça... En substance, ça signifie que ça lui plaît pas beaucoup qu'on puisse penser autrement, voir le monde autrement et ouvrir l'espace à une diversité de voix, en fait.
Bruno Doucet, pour terminer ce premier tour de table, vous êtes poète, vous êtes fondateur des éditions du même nom, qui chaque année publie une anthologie en écho à la thématique choisie par le Printemps des Poètes, et je signale bien sûr en toute indépendance, il ne s'agit pas de faire de vous le représentant du Printemps des Poètes, mais le choix de Sylvain Tesson, qui est revenu à Sophie Nolo, au Printemps des Poètes, et à elle seule, si j'ai bien compris. Ce choix-là, dont vous avez pu dire dans Le Monde, oh là là, la tuile, ça va causer des problèmes, hein, quand vous avez su qu'il avait été nommé. Vous le voyez comment? Vous le voyez comme un choix plus commercial que politique?
Oui, oui, probablement. Mais moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que j'avais peut-être, par rapport à d'autres, un petit temps d'avance à l'allumage, parce que je préparais depuis déjà plus de 6 mois cette anthologie, et que dès la préface, donc écrite bien avant la nomination de ce parrainage de Sylvain Tesson, eh bien, je faisais remarquer que la lettre qui précède le mot grâce dans le dictionnaire, c'est grabuge. Et je le sentais venir. Voilà, clairement. Cette thématique, honnêtement, ne m'emballait pas. Je m'y suis engagé parce que je le fais depuis 20 ans en toute indépendance, comme vous l'avez rappelé, mais aussi parce que j'ai un large lectorat qui attend ces anthologies, des gens qui sont sur le terrain, dont nous reparlerons, je pense, dans un instant. Et donc, c'est pour eux, au fond, que je l'ai fait. C'est pour les poètes aussi. Hein. Nous ouvrons les pages de nos anthologies respectives. Je pense celle qui établit Jean-Yves Rezeau, Castor Astral. Eh bien, à de très nombreux poètes. 115, 120 poètes, c'est considérable. Pour ma part, une majorité de femmes. Les 5 continents y sont représentés. Donc, c'est un travail considérable, mais je sentais venir très clairement le problème. Et alors, j'ai l'impression qu'on vient tous de traverser un très épineux buisson de paroles. Nous en sortons tous un peu éraflés, écorchés. Mais je me dis, il y a peut-être du bon là-dedans. Nous, c'est comme si nous avions vécu... 3 ans en 3 semaines. Je m'explique. Déjà, en quelques jours, nous sommes passés de la grâce à la disgrâce, et maintenant nous disons de grâce. Laissez-nous travailler. Mais nous avons déjà poursuivi l'abécédaire entrepris par Sophie Nolot. Cet abécédaire qu'elle ne terminera jamais. Nous sommes passés à la lettre H, celle des Alali, des Haro, celle de la honte aussi. Parce que lorsqu'on lit cette presse d'extrême droite que vous avez rappelée, on a honte pour eux.
Alors je rappelle, cafard, nain, oui. Nain woke, stalinien, non, médiocre, écrivaillon jaloux, crétin, cultureux, imbécile. On a parlé de lynchage, de saloperie. Donc ça, c'est un peu un florilège du vocabulaire pioché ça et là dans la presse. On peut s'étonner d'ailleurs qu'on ne s'en soit pas indigné davantage du vocabulaire qui a été utilisé pour désigner ce qui représente malgré tout une part substantielle de la scène poétique en France. Au fond, qu'est-ce que pour vous, Bruno Doucet, qu'est-ce que ça nous raconte toute cette séquence-là?
Disons clairement que nous voyons bien quelle sera la place faite à la culture dans le monde que cette presse voudrait dessiner. C'est de cela dont il s'agit. Hein. Alors, si je poursuis, eh bien, il y a aussi le H de la grande H hein, qui s'est élevé peut-être au-dessus de la tête de Sophie Nolot et de Sylvain Tesson, mais au-dessus, j'allais dire aussi des baronnies, d'une certaine féodalité, de l'endogamie qui préside à tout cela, parce que c'est quand même bien cela qui est en cause. Et puis alors, allègrement, nous allons vers les lettres suivantes, hein, le I. Le oui des imprécations, très très clairement, et des invectives, voilà. Certains ont dit des idioties, je les renvoie à cette parole, on leur tend le miroir de ce qu'ils disent. Et puis, je pense aussi la lettre J, et je m'arrête là, de la jeunesse qui frappe à la porte, mais qui est déjà entrée et qui dit « je suis là ». Et je n'ai pas envie de voir le printemps des poètes confisqué par une petite caste, une baronnie qui est là depuis très longtemps, de gens qui parfois sont septuagénaires ou octogénaires, et nous sommes porteurs d'une vitalité, d'un rêve de transformation de la langue, du monde. Mais écoutons-les et donnons-leur la place qu'ils méritent d'avoir.
On va en parler de ce chantier-là, évidemment. On a beaucoup entendu le discours indignant de la politisation de la poésie, comme si c'était un gros mot. Vous diriez que rien n'est plus politique que la poésie, Gaëtan Dédelot ?
On l'avait évoqué auparavant, on en a discuté un peu avec Mélanie, prendre la parole dans l'espace public, c'est de fait politique, déjà. Ensuite, évidemment que travailler le langage il est loin d'être innocent, il est façonné par des institutions. Il y a maintenant, depuis plusieurs siècles, ce qu'on appelle une orthographe, c'est-à-dire littéralement une chose qu'on appelle une bonne manière d'écrire. Et donc, mettre ça en question, c'est évidemment politique. Et aussi parce que quand on prend la parole, on prend la parole toujours depuis un endroit donné. On n'est jamais neutre. Enfin, je veux dire, la société, dès notre naissance, nous a assigné un certain nombre de places. On a une place sociale, on a une place dans le genre, on a une place dans la sexualité, etc. Et donc, j'avais aussi en tête quand je parlais de diversité des voix, toutes ces questions-là, c'est-à-dire le fait que la jeunesse qui était très bien évoquée par Bruno Doucet, enfin moi, les jeunes poètes que j'ai le plaisir de rencontrer à la librairie, bah c'est vraiment des personnes qui apportent avec elles tout un lot de questionnements qui sont, je pense, majeurs. Je pense, aux questions de genre, aux questions de sexualité, aux questions d'antiracisme, d'anti-homophobie, d'anti-transphobie, etc. Toutes ces questions-là, évidemment que la poésie, qui est cet espace où on va pouvoir travailler le langage, en fait, essayer de, comme je disais, de dire autrement, de trouver peut-être sa propre façon, sa propre manière, Et quand je dis dire, hein, c'est dire, on peut dire la chose telle quelle, on peut employer un synonyme, on peut employer une métaphore, mais on peut employer sa voix, on peut employer un corps, on peut employer un geste, on peut employer la voix d'autres personnes qu'on va soit prendre telle quelle ou modifier, on peut s'associer à d'autres corps. Mélanie Leblanc, elle avait fait une lecture à la librairie où elle avait associé le public à la lecture, par exemple. C'est, voilà, c'est tout ça, c'est... Je me suis perdu, je ne sais plus quelle est la question, mais en tout cas, c'est très enthousiasmant tout ça.
Est-ce qu'il y aurait aussi, Mélanie Leblanc, au fond, quelque chose comme une histoire de rapport de classe parce que quand on regarde toute cette presse, et alors bien sûr, c'était majoritairement la presse de droite et la presse d'extrême droite, mais pas seulement, je le redis, quelque chose comme un mépris prononcé à l'égard de tous ces poètes au motif que certains d'entre eux ne seraient pas légitimes à parler parce que peu lus ou pas assez lus ou voire inconnus, ce qui pose déjà la question, et l'idée d'avoir le mauvais goût de s'attaquer au fond à la figure du grand écrivain face aux petits poètes.
Ah oui, je pense qu'il y a une question de classe, évidemment, mais aussi ce qui est intéressant, c'est que c'est au nom de la liberté d'expression qu'il nous intime de nous taire. Et en fait, parmi ces signataires, il y a vraiment tout le monde de la poésie qui est représenté, notamment le président du marché de la poésie,
Yves Boudier,
qu'on a pu lire dans Le Monde. Il y a Magali Brasil, il y a énormément de personnes qui dirigent des maisons de la poésie. Il y a quand même aussi les responsables d'un festival de poésie historique fondé par Jean-Pierre Siméon, la Semaine de la Poésie. En Auvergne, c'est la 37e édition, je crois, et elles ont signé, elles étaient révoltées elles-mêmes. Donc il y a vraiment des acteurs, et évidemment plein d'éditeurs et d'éditrices. Il y a vraiment des acteurs sérieux. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait eu une tribune en juillet du monde du théâtre qui dénonçait l'hégémonie, enfin la part grandissante de l'extrême droite dans la sphère culturelle. Et cette tribune n'a pas eu de retentissement. Et cette tribune était signée par des gens très en place, des directeurs de lieux, des directeurs de théâtre. Elle n'a pas eu ce retentissement. Donc là, on a touché à la figure du prince, en fait. Et on pense vraiment que c'est un cheval de Troie, en fait. C'est un cheval de Troie. Il est compagnon de route de l'extrême droite. Il ne faut pas oublier ça. Et en fait, moi, je l'ai découvert, j'ai eu une intuition, en fait. Mon nom, il est venu vraiment juste du cœur. Juste, non, ce n'est pas possible. Moi, je suis sur le terrain. En fait, je suis constamment en REP+, dans les quartiers sensibles, en train de partager de la poésie avec des enfants. Je vais aussi en détention, etc. C'est vraiment des mondes qui n'ont rien à voir. Je l'avais entendu témoigner pendant Sylvain Tesson pendant le confinement. C'était un mépris de classe. Et en plus, il emploie le mot des masses. Il méprise les masses. Donc oui, évidemment, ça revient à ce que vous dites. Il y a un mépris de la masse.
La question qui se pose aussi, c'est est-ce qu'une association financée par le ministère de la Culture et subventionnée par le Centre National du Livre peut se doter d'un parrain à ce point marqué idéologiquement, ou est-ce qu'au contraire il faut se féliciter qu'il n'ait pas droit de regard sur les choix de la direction artistique d'une manifestation qu'il subventionne, Bruno Doucet?
Écoutez, le parrain, j'allais dire, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, ce sont les publics. Parce que, comme vous l'avez dit, le Printemps des Poètes fonctionne presque exclusivement avec de l'argent public versé par le CNL, et même les sommes sont apparues dans la presse, donc chacun peut les retrouver. Donc il est temps de considérer que cet argent public doit être dédié au public, que les poètes comme Mélanie et d'autres rencontrent tout au long de l'année, hein, je tiens à le préciser, c'est pas seulement pendant 15 jours, mais ces publics, il faut les nommer. Gaëtan, tu l'as dit, c'est bien sûr les poètes eux-mêmes, mais également les musiciens, les comédiens qui les accompagnent, mais aussi les bibliothèques, les médiathèques, les maisons de quartier, les maisons de la poésie qui quadrillent le territoire, les collèges, les MJC, les écoles, les EHPAD, les hôpitaux psychiatriques, les prisons, les foyers d'accueil de personnes sans abri ou de migrants en voie de régularisation ou d'expulsion. Ce sont ces gens-là que nous rencontrons. De sorte que ce n'est pas tout à fait, je pense que le terme est un peu excessif, un printemps des poètes. Mais un printemps de la poésie. C'est pas le moment où le poète vit son quart d'heure de gloire ou son moment de bravoure. C'est pas ça. C'est le moment où il part à la rencontre de publics qui sont souvent des publics fragilisés.
Vous écoutez France Culture poésie et ainsi de suite par Manu Farine.
Aujourd'hui, à la technique, Ludovic Augier, à la réalisation June Loper, à la préparation Virginie Leduo, et avec nous Mélanie Leblanc, Gaëtan Didelot, Bruno Doucet, pour un point, un pas de côté ou de recul tout petit, 15 jours après la polémique qui a secoué le printemps des poètes. Question et maintenant, on y répond juste après ça.
I was reading some errands and I got to thinking that I thought maybe I'd get less stressed if I was tested less like all of these debutantes. Smiling for miles in pink dresses and high heels and white yachts. But I'm not, baby, I'm not. No, I'm not. That I'm not. I've been tearing around in my fucking account 24/7 Sylvia Plath, writing in blood on my walls 'cause the ink in my pen don't work in my notepad. Don't ask if I'm happy, you know that I'm not, but at best I can say I'm not sad.
Lana Del Rey, évoquant Sylvia Plath, un petit mot pour revenir sur cette tribune du 18 janvier, les uns et les autres. En préparant l'émission, j'écoutais un court entretien avec Jack Lang, qui était à l'initiative donc du Printemps des Poètes en 1999, et on l'interrogeait sur la poésie et sur, on lui demandait à quoi la poésie était l'indispensable, et il répondait par le rêve, l'utopie, la sensibilité, etc., etc. En 99, est-ce qu'au fond, est-ce que ce n'est pas aussi dès le départ déjà qu'il y a eu une sorte de décalage entre la vision de la poésie telle qu'elle a pu être, et je ne peux pas tout jeter, hein, telle qu'elle a pu être défendue, et surtout ces dernières années au Printemps des Poètes, et avec ce qui se passe réellement sur la scène contemporaine, Gaëtan Didelot?
On a le droit de considérer que la poésie, c'est quelque chose qui renvoie à la sensibilité, etc. Toute la question, en fait, c'est...
Oui, mais le Printemps des Poètes est assez hégémonique.
Oui, c'est ça. Mon problème, c'est que ça, c'est une façon de voir, et il faut laisser la place. Et peut-être, moi, ce que je regrette, c'est la façon dont sont invisibilisées énormément de pratiques. On parlait de ça, de dire c'est des poètes, c'était des inconnus face au prince des poètes. Là. Enfin, bon, moi, je suis plus dans l'ancien régime, hein, j'habite dans une démocratie. Donc, il n'y a pas de prince, de roi, des trucs comme ça. Et du coup, ce qui est dingue, c'est que des journalistes, je mets des guillemets, qui disent c'est des inconnus et qui ont même pas, ça leur vient même pas à l'idée de se dire mais peut-être que c'est moi qui suis ignorant, en fait. Et peut-être que je devrais aller m'intéresser à qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs pratiques, etc. Et peut-être que ça aurait évité de dire de gens comme Charles Penquin ou Liliane Giraudon, qui sont des gens qui, je pense, ont vraiment changé la face de ce que c'est que la création poétique en France, de dire que c'est des inconnus et des gens qui, enfin, je sais pas, des moins que rien, quoi. C'est voilà. Donc
Je pense qu'il y a une distinction forte à faire entre le Printemps des Poètes, l'association, et le moment qu'on appelle le Printemps des Poètes, qui est, enfin, c'est un peu comme la Fête de la musique.
C'était pensé comme ça d'ailleurs.
Voilà. Et moi, je tiens à dire que tous mes mois de mars sont pleins depuis des années, mais jamais directement en lien avec l'association le Printemps des Poètes. En fait, ce sont des libraires, des médiathèques aussi qui m'invitent, et en fait, ils sont autonomes. Ils invitent les poètes et les poétesses. Et donc, c'est bien qu'il y ait ces initiatives-là et qu'elles puissent perdurer, mais sur toute l'année. Merci de l'avoir dit tout à l'heure. C'est vraiment important. Maintenant, la poésie n'a plus besoin de parrain parce qu'elle n'a pas besoin d'être représentée ou d'être aidée par d'autres figures. La poésie, enfin, les ventes explosent. Il y a un article du Monde de Nick Osnard du mois de juin dernier qui montre très bien la vitalité, la vigueur de la poésie. Et donc, on n'a pas besoin de parrain. On n'a pas besoin non plus que tout l'argent soit concentré, enfin, que la plus grande partie partie de l'argent soit concentrée sur une association. Et pour avoir une pluralité des voix, je pense qu'il faut que ça soit une plus grande distribution. Et sans doute aussi que cette association soit moins, fonctionne de façon plus collégiale, etc. Mais toutes ces questions-là, moi, je me sens pas légitime en tant que poétesse d'intervenir là-dedans. Et je pense qu'il y a plein de voix différentes, il y a plein de choses qui sont en train de se discuter. On est en effet dans un moment d'effervescence et c'est le moment de redéfinir les lignes et de montrer à quel point la poésie est variée. Il y a des gens qui pratiquent la poésie juste à l'oralité, par exemple. Ils ont le droit d'exister. Il n'y a pas que le poétique, un truc un peu nébuleux avec des petites fleurs, quoi. Enfin,
ou des oiseaux.
Je voudrais vous répondre à vos deux questions en même temps, c'est-à-dire hier, Jack Lang, à la fin des années 90, et demain, puisque c'était le sens de ce dernier moment. Moi, j'ai envie de dire, poète, soyons curieux de tout et dévots de rien. C'est un peu le mot d'ordre que je voudrais lancer aujourd'hui. Il est absolument... On est dans un espace aujourd'hui qui est fracassé, où la parole est fracassée, clairement, et où elle devient vraiment inaudible. Repoétisons nos imaginaires, revitalisons nos imaginaires, c'est de cela dont nous avons besoin. Battons-nous avec les armes de la poésie contre ces médias qui nous préparent le monde que nous ne voulons pas voir advenir. Mais c'est avec la force du poème que nous nous battrons contre eux, et non pas en allant sur leur terrain, qui est de toute façon celui de l'invective, des tribunes, etc. Donc moi je crois qu'on a vraiment besoin de cela, on a besoin de la parole ouverte du poème, de cette parole polyglotte, n'oublions pas les voix venues d'ailleurs, de cette parole plurielle pour affronter les grands combats de notre temps. Les problématiques d'écologie planétaire, la traversée des turbulences démocratiques, c'est pas rien tout de même. Hein. La lutte contre l'obscurantisme, la barbarie, ça on la rencontre tous les jours dans le repli sur soi, la xénophobie, le refus des transformations de notre temps et des êtres.
On entend parler sur les réseaux sociaux pour la suite. Alors, il y a ceux qui sont mobilisés contre ce parrainage, ceux qui se mobilisent ou qui râlent depuis très longtemps contre l'idée même du printemps des poètes et l'idée d'une manifestation officielle, qui est aussi une question qui se pose. On parle de printemps sauvage, on parle de contre-printemps. Vous, pourquoi est-ce que vous plaidez? Pour quelle forme vous plaidez? Ou est-ce qu'au fond, ça n'a pas tellement d'importance, Gaëtan Didelot?
Je pense que c'est bien que dans une lutte. Alors moi, je sépare pas l'œuvre de l'artiste. Donc je pense que oui, le poème c'est hyper important. Mais je pense que tous les combats, il n'y a pas de meilleur combat que d'autres, et tous les combats peuvent être menés ensemble. Et donc je pense qu'il faut faire des tribunes, il faut manifester, mais il faut aussi faire des livres de poésie et faire des performances, etc. Et donc du coup, pour moi, l'important c'est que là, il y a un enjeu de s'organiser collectivement. Je pense que c'est ça s'il y a une sorte de petite boule qui a pu être lancée par cette dynamique, c'est ça que j'entends par cette petite boule, qui a pu être lancée par la tribune, c'est de faire que, on émerge l'idée que on peut former quelque chose collectivement, puisqu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on tombe d'accord, de toute évidence.
D'ailleurs, dans cette tribune, il y avait des gens avec des goûts poétiques tellement différents. Moi, le dernier paragraphe était très clivant, et il y a des gens qui sont passés au-dessus parce qu'ils étaient profondément contre l'extrême droite. Et je voulais paraphraser Godard parce que je suis aussi prof de cinéma, et je pense que l'idée c'est de faire politiquement de la poésie.
Alors là, on va formidablement bien s'arrêter sur cette dernière parole de Godard. Merci beaucoup Bruno Doucet, Mélanie Leblanc, Gaëtan Didelot. Merci infiniment à tous les trois d'être venus pour commencer à répondre à peine à toutes ces questions qui agitent la poésie et donc la société. Je signale évidemment que le dit Printemps des Poètes se tiendra du 9 au 25 mars sous le parrainage donc de Sylvain Tesson et que l'anthologie Grâce, le livre des heures poétiques, a paru hier, je crois, si je ne dis pas de bêtises, aux éditions Bruno Doucet. Poésie et ainsi de suite, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission en partenariat avec La Croix l'Hebdo que vous pouvez réécouter et partager sur le site et l'appli Radio France. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bon après-midi à toutes et à tous.